franceinter.fr.
Bonjour. Au sommaire de cette édition, 7 grands de ce monde en Sicile aujourd'hui et demain au sommet du G7. 7 grands dont 4 petits nouveaux pour parler climat, immigration ou encore terrorisme. Le terrorisme, pas question de céder à la peur. Dans la grande ville d'Angleterre, des milliers de personnes seront dans les rues cet après-midi pour le Manchester Great City Games de l'athlétisme de rue. En attendant, on s'interroge sur les réseaux libyens plus actifs que jamais. Et puis en Égypte, ce matin, une vingtaine de chrétiens coptes tués, tombés dans une embuscade. La polémique autour de l'opération immobilière de Richard Ferrand, l'élection législative sera le juge de paix, vient de déclarer Édouard Philippe, le Premier ministre. Un jugement administratif important à Dijon, celui qui donne raison à un vigneron bio qui refusait de se soumettre au contrôle obligatoire pour obtenir son appellation contrôlée. Et puis la campagne du thon rouge en Méditerranée qui a repris la nuit dernière, la politique des quotas a payé. Dans cette édition également, un manifeste pour dire que bien trop de personnes âgées en France finissent leur vie en maison de retraite. Un voyage à Indianapolis, au cœur de l'Amérique. Indianapolis est sa plus ancienne course automobile au monde. Et pour finir, nous irons à Cannes, aux côtés d'Eva Bétan, pour un premier bilan du festival. Sa consœur italienne critique des El Messaggero. Elle s'appelle Gloria Satta. Le temps de ce week-end de l'Ascension. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Alain.
Les plages de Bretagne sont prises d'assaut. Il fait chaud.
Oui, après une journée d'hier qui a déjà battu des records, la chaleur va encore gagner du terrain aujourd'hui. Il fait déjà 30 degrés à Biarritz, où le mercure grimpera jusqu'à 35 degrés cet après-midi, avant un net rafraîchissement en fin de journée. Prévoyez 25 à Cherbourg, Montpellier et Ajaccio, 28 à Marseille, Lille et Strasbourg, 29 pour Paris et Caen, 31 à Lyon, 34 à Bordeaux. C'est à Nice qu'il fera le moins chaud avec seulement 23 degrés.
Quelques nuages sur le sud.
Oui, mais un soleil radieux sur quasiment l'ensemble du pays, avec un peu de vent pour rendre la chaleur supportable, notamment le vent d'Autan dans le midi toulousain. Sur le relief, quelques cumulus vont fleurir. Sur les Alpes du Sud, les averses pourraient être parfois orageuses. Sur le littoral du Languedoc-Roussillon, les grisailles vont se morceler, mais peuvent localement rester tenaces entre Bagnouls-sur-Mer et Narbonne. Et puis au sud de la Garonne, des remontées d'Espagne vont apporter un ciel un peu plus nuageux et quelques ondées, voire des orages sur les Pyrénées en soirée.
On raconte que c'est l'Italien Matteo Renzi, remercié depuis d'ailleurs, qui, il y a un an, a choisi la Sicile pour accueillir ses collègues du G7. Au départ, il pensait les réunir dans sa Toscane natale, mais après avoir entendu une blague pleine de préjugés et un peu stupide sur la grande île, soi-disant terre de mafia, qu'il a changé d'avis. Pour sensibiliser un peu plus les grands de ce monde aux questions migratoires, il a pensé à l'île de Lampedusa, mais impossible d'y faire atterrir l'Air Force One du président américain. C'est donc finalement à Taormina, l'un des endroits les plus touristiques de la Sicile, que sont réunis depuis ce matin 7 des dirigeants les plus riches de la planète. Bonjour Mathilde Amerti.
Bonjour à tous.
Parmi les 7, plusieurs petits nouveaux dont le nôtre.
Oui, 4 des 7 dirigeants présents ici n'ont jamais participé à un G7. Le plus récent, par ordre de date d'élection, est Emmanuel Macron. Le président français est apparu souriant et détendu lors de la photo de famille il y a une petite heure dans le théâtre antique de Taormina. Donald Trump vit lui aussi son premier G7. Le président américain, qui a déjà eu l'occasion ces derniers jours d'aborder les thèmes les plus épineux, il est en tournée hors des États-Unis depuis le début de la semaine. Enfin, Theresa May pour le Royaume-Uni et Paolo Gentiloni pour l'Italie complète cette équipe des petits nouveaux. Chacun est accompagné de sa moitié, à l'exception de Madame May, sans monsieur. Elle repartira d'ailleurs dès ce soir au Royaume-Uni.
Et comme d'habitude, Mathilde, le sommet se déroulera sous cloche.
L'Italie n'a pas lésiné, surtout après l'attentat de Manchester. 7000 membres des forces de l'ordre sont déployés, selon les données de la préfecture. Taormina, la cité fortifiée, qui d'ordinaire en mai grouille de touristes, a été vidée pour faciliter le travail des services de sécurité des différentes délégations. Mais les ruelles sont si étroites que même sans touristes, elles se sont révélées engorgées. Quand il a fallu tout à l'heure faire passer les voiturettes de golf jusqu'au palais qui abrite les sessions de travail, il est impressionnant aussi d'observer que dans cette baie magnifique, il n'y a plus aucun bateau en mer. Interdiction de naviguer, hormis pour les navires militaires qui veillent au bon déroulé du sommet.
Mathilde Imberti, voilà pour le décor. De quoi va-t-on parler aujourd'hui et demain à Taormina? Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Alain.
Des sujets qui fâchent et d'autres moins.
Oui, la thématique la plus consensuelle étant la lutte contre le terrorisme. Avant même l'ouverture du sommet, Emmanuel Macron a assuré Theresa May de son soutien en voulant renforcer la coopération antiterroriste au niveau européen. Une conversation d'une heure en anglais, précise l'Élysée. Vous savez que la dirigeante britannique a décidé d'écourter sa présence à ce G7 en raison de l'attentat de Manchester. Elle rentrera donc à Londres dès ce soir après avoir appelé les opérateurs d'Internet à éradiquer la propagande djihadiste en ligne.
Alors, deux sujets en particulier, Bertrand, qui vont donner matière à débat.
À commencer par l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Donald Trump voulait le dénoncer. Il se montre désormais hésitant. Et au nom de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker met la pression sur les États-Unis.
Nous allons comparer la façon dont nous voyons les choses, la façon dont on veut appliquer l'accord de Paris et la façon dont les Américains abordent ce problème. Nous pensons que cet accord de Paris doit être appliqué dans son intégralité. Et c'est ce dont nous allons parler.
Discussion assez énergique en perspective, si l'on en croit l'entourage du président américain. Donald Trump ne se prononcera qu'après son retour à Washington. L'un de ses conseillers prédit également des échanges très vigoureux sur le commerce, l'autre sujet polémique du jour. Le rôle d'arbitre de l'OMC est mis en cause par les États-Unis, tandis que la France veut un accord ambitieux sur la défense du système multilatéral. Toute la difficulté de ce G7 consiste, vous le voyez, à ne pas stigmatiser les positions tranchées des États-Unis afin de garder une apparence d'unité.
Bertrand Galichet comme Mathilde Imberti avec les moyens techniques de Jérémy Thuile. Merci. Ne pas céder à la peur, ne rien concéder sur notre mode de vie. Ces paroles, on les entend régulièrement après les attentats islamistes, qu'ils soient perpétrés à Paris, Berlin ou Londres. À Manchester en tout cas, on appliquera cet après-midi, 3 jours après le massacre, ces paroles à la lettre. Chaque année dans la ville, des milliers de Mancuniens participent au traditionnel Manchester Great City Game, compétition sportive qui se déroule en plein cœur de la ville. Et ce sera comme d'habitude, Julie Pietri.
Albert Square a troqué ses habits de deuil, ses fleurs des premiers jours, contre une piste d'athlétisme où s'élanceront dans quelques heures les spécialistes du saut à la perche. Manchester a été la première ville du Royaume-Uni à organiser ce genre d'événement, raconte ce mancunien, adepte de la compétition. Il devrait y avoir des milliers de personnes dans le centre-ville. Certains des plus grands athlètes au monde viennent ici, des médaillés olympiques. C'est un très bon rendez-vous. Pour sa première édition en 2009, on a par exemple vu Usain Bolt courir en pleine ville. Cette année, après l'attentat, plusieurs athlètes britanniques, dont l'ancien champion olympique de saut en longueur, Greg Rutherford, ont répondu présent, une forme d'hommage, dit-il. Et les habitants, comme ces deux jeunes femmes, sont reconnaissants. On montre juste qu'ils ne gagneront pas, on reste ensemble et on continue à faire ce que l'on fait d'habitude. Je peux complètement comprendre que les gens soient à cran, mais on restera soudés et rien ne nous arrêtera, on va avancer. Les premiers athlètes s'élanceront un peu avant 18h, d'abord le saut à la perche, puis un peu plus loin, le 100 mètres sous surveillance policière. À Manchester, Pierre Quintard, Julie Pietri, France Inter.
Et en Angleterre, c'est aussi la campagne des législatives qui a repris ses droits aujourd'hui. L'enquête autour du terroriste kamikaze se poursuit. De toute évidence, Salman Abedi n'a pas agi seul. Une dixième arrestation a eu lieu hier soir. 8 personnes interpellées sont toujours en garde à vue. Le père et le frère d'Abedi ont été arrêtés cette semaine en Libye. Ils n'ont pas été libérés depuis. C'est plus souvent dans ces affaires la Syrie qui est montrée du doigt. Mais dans l'ex-fief de Kadhafi, les réseaux djihadistes sont très actifs, Christian Chéneau.
La Libye est plus que jamais une terre de djihad. Le terreau y est favorable. Des frontières terrestres poreuses, des quantités astronomiques d'armes et d'explosifs dans la nature, des milices armées puissantes et un état faible, voire quasi failli. Car depuis la chute de Kadhafi, ce sont les seigneurs de guerre qui tiennent le haut du pavé. Et face au chaos, les pays occidentaux sont complètement impuissants et dépassés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seule l'Italie dispose d'une ambassade à Tripoli. La France a replié ses diplomates en Tunisie. Et la situation n'est pas prête de revenir à la normal de sitôt. Acculés sur le front syro-irakien, les djihadistes sont en train d'essaimer dans les pays voisins et cherchent des zones de repli et la Libye est accueillante. On sait que des bateaux chargés d'armes affrétés par le groupe État islamique depuis la Turquie ont abordé les côtes libyennes, notamment dans le port de Misrata. Pour l'Europe, le danger est aujourd'hui considérable, d'autant que les terroristes peuvent se dissimuler dans le flot des réfugiés qui prennent la mer et échouent sur les côtes italiennes.
Et puis de la Libye à l'Égypte, avec cette fois la communauté chrétienne de nouveau prise pour cible. Bonjour François Humfer-Kataji.
Bonjour.
Vous êtes en Égypte, un groupe de coptes donc a été la cible d'une attaque ce matin. 23 morts, c'est un premier bilan.
Oui, le convoi d'un groupe de coptes, deux bus et un camion qui souhaitait se rendre au monastère Saint-Samuel a été attaqué par une dizaine d'hommes en armes en Moyenne-Égypte, donc dans la province de Minya. Ces hommes ressemblaient à des militaires, selon les premiers témoignages. D'après la télévision d'État, vous l'avez dit, cette attaque a été sanglante, plus d'une vingtaine de morts. Il y a deux jours, l'ambassade des États-Unis avait mis en garde ses ressortissants quant à l'imminence d'une attaque. Le groupe ASM, un groupe de révolutionnaires, branche radicalisée des frères musulmans, avait promis de commettre un attentat avant le début du Ramadan. Mais l'attaque de Minya aujourd'hui pourrait porter la marque de l'État islamique, même si pour le moment, aucune organisation ne l'a revendiqué. En effet, la branche égyptienne de l'État islamique s'attaque depuis des mois à la communauté copte, cherchant à créer des divisions communautaires dans le pays. En décembre dernier, 27 personnes avaient été tuées après qu'un kamikaze s'est fait exploser en plein centre du Caire dans une église jouxtant la grande cathédrale copte Saint-Marc. Il y a tout juste un mois, un double attentat, le jour du dimanche des Rameaux, avait frappé deux églises à Tanta et à Alexandrie dans le nord du pays, faisant 45 morts. Des attaques rapidement revendiquées par l'État islamique. Alors depuis plusieurs semaines, le pouvoir égyptien et les chancelleries occidentales craignent que Daesh, dans le Sinaï, exporte ses actes de terreur dans le reste du pays à grande échelle, où l'organisation pourrait s'appuyer sur des cellules dormantes d'islamistes radicaux présents en nombre. Pour le moment, les chrétiens coptes égyptiens sont les premières victimes de cette stratégie macabre. La communauté se remet à peine du choc des précédents drames. Le pouvoir pourrait être déstabilisé en raison de son impuissance face à ces attaques répétées, même si les services de sécurité ont peu de moyens d'agir face à de tels procédés qui rappellent ceux de la Gamat Ismaïlia dans les années 90.
En direct d'Égypte, merci François Hume, Ferkataji.
France Inter, le journal de 13h. Alain Passerelle.
Il y a un débat, mais pas d'affaire Ferrand, a tenu à dire Christophe Castaner ce matin. Le porte-parole du gouvernement, invité par nos confrères de France Info, a estimé qu'une affaire devait avoir, pour être ainsi nommée, une base légale et une problématique pénale. Et pour lui, ça n'est pas le cas. Pour le ministre de la Cohésion des Territoires, non plus, évidemment. Richard Ferrand, mis en cause dans une opération immobilière réalisée il y a 6 ans, lors de laquelle il aurait privilégié son épouse, a exclu hier soir de démissionner, ni coupable pénalement, ni moralement, a-t-il affirmé. Peut-être a-t-il raison, mais d'autres avant lui s'étaient ainsi défendus avant de devoir céder. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour Alain Passerelle.
En ces temps de désir intense, de moralisation, le compagnon de la première heure d'Emmanuel Macron, coupable ou non, peut-il réussir à sortir indemne de cette polémique? Il y a quelques minutes, Édouard Philippe a trouvé qui finalement, elle est arbitrée.
Les législatives seront le juge de paix pour Richard Ferrand. Déclaration du Premier ministre Édouard Philippe ce matin. Il était sur le terrain à Paris pour soutenir un candidat d'En Marche aux législatives. La stratégie de l'exécutif est claire. Présenter la loi sur la moralisation publique en Conseil des ministres avant le premier tour et ensuite laisser les électeurs bretons juger Richard Ferrand qui fait campagne aujourd'hui dans le Finistère. Pas question de démissionner donc, même si hier le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis a appelé Richard Ferrand à se retirer. Un proche du Premier ministre le reconnaît ce matin. Ce week-end sera un bon test. On verra si les candidats de La République En Marche se font cracher à la gueule ou pas à propos de Richard Ferrand. Fermez les guillemets. Quand bien même Matignon rappelle la coutume républicaine, on démissionne si l'on est mis en examen. Ça n'est pas le cas pour Richard Ferrand dans l'affaire immobilière. Il n'y a même pas d'enquête préliminaire.
Une immense victoire pour tous les viticulteurs, producteurs de vin bio et naturel qui se battent chaque jour contre un système absurde et bureaucratique. C'est ainsi que l'avocat d'un vigneron de Tracy-sur-Loire dans la Nièvre a qualifié ce matin le jugement du tribunal administratif de Dijon, tribunal qui a décidé de lui rendre son appellation d'origine contrôlée, son AOC. Alexandre Bain, dont le pouilly fumé naturel s'exporte sur les grandes tables de Copenhague, Stockholm ou encore Tokyo, avait refusé de se soumettre au contrôle obligatoire pour bénéficier de cette appellation. Bonjour Sarah Guimondo.
Bonjour.
La justice administrative vient donc de donner raison à cet homme dont les vins réputés sont faits sans aucun produit chimique et en utilisant la traction animale.
Oui, depuis 3 ans, Alexandre Bain ne pouvait plus mettre l'étiquette pouilly fumé sur ses bouteilles. Il avait plusieurs fois reporté le rendez-vous pour un contrôle qualité, dont une fois à cause des vendanges. La sanction est annulée, jugée disproportionnée. L'avocat de l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, avait assuré lors du procès que la qualité du vin n'était pas en cause. Pourtant, le viticulteur estime que ses méthodes, ni pesticides, ni ajouts de produits chimiques, heurtent les baronnies locales. Son avocat Éric Morin dénonce même un acharnement.
Tous les autres font du vin conventionnel avec des pesticides, avec des produits chimiques. Et comme par hasard, c'est ce viticulteur-là qui a fait l'objet de multiples demandes de contrôle en plein mois d'août, en plein été. On ne peut faire que ce constat, s'interroger sur les jalousies qui sont provoquées par le succès de ces vins. Et c'est le seul viticulteur qui a fait l'objet d'un tel acharnement, aujourd'hui justement sanctionné par le tribunal administratif de Dijon.
Si le retrait d'appellation peut être une quasi-peine de mort pour un vin, ceux d'Alexandre Bain ont toujours du succès. C'est surtout une victoire de principe pour lui, pour d'autres producteurs de vins naturels qui dénoncent les normes absurdes et les tracasseries administratives. Et pour son percheron Philomène, le cheval des vendanges.
Sarah Guibaudot, pour continuer dans la veine écolo, sachez que la campagne du thon rouge a commencé la nuit dernière à minuit précise. En France, après avoir failli disparaître de Méditerranée, ce thon, cette vache des mers comme on l'appelle, a repeuplé la mer à force de quotas et de contrôles draconiens, redonnant espoir pour la préservation de ce thon menacé dans le monde entier. Les pêcheurs de thon et d'autres espèces d'ailleurs, on les a beaucoup entendus ces dernières années se plaindre des quotas imposés souvent par l'Europe, des technocrates disaient-ils. Eh bien, beaucoup ont changé d'avis. Les jeunes en tout cas ont conscience de ce qui se joue et savent qu'ils ont tout intérêt à pêcher avec modération. Il s'appelle Sébastien Fortassier, il a 28 ans. Il est parti du port de Sète pour pêcher le thon rouge il y a quelques heures.
Je vais peut-être dire quelque chose qui ne va pas plaire aux anciens, mais grâce aux écologistes qui ont mis leur nez dedans, la ressource s'est bien reconstituée, les règlements drastiques auxquels on a dû se soumettre nous ont fait du bien. Et je pense que l'avenir, il est quand même un peu plus radieux qu'il y a quelques années en arrière. La nouvelle génération, on a une vision complètement différente. On a grandi avec ça. À l'école, déjà petit, on a été faut pas jeter ça à la mer, faut pas faire ci. Moi, personnellement, j'essaie de le reproduire. De rien jeter à la mer, c'est pas une poubelle, c'est une génération différente. Hein. Et pour la pêche, c'est la même chose. Quand on pêche du petit poisson, on le relâche. Hein. On essaie de travailler intelligemment, plus intelligemment. Bon, je dis pas qu'ils étaient bêtes à l'époque, hein. Mais de travailler un peu plus intelligemment pour pouvoir prospérer tranquillement.
Un propos recueilli par Elisabeth Badinier, une vieille dame qui fait un doigt d'honneur. C'est la une du journal Libération ce matin qui titre « Tous nos vieux de bonheur » et qui relaie un manifeste sur la question du grand âge. Plus précisément, sur le sort des personnes placées dans des établissements, des EHPAD notamment, où elles ne voient plus guère d'avenir. En France, 700 000 personnes vivent en maison de retraite. Contre leur gré, pour une bonne partie d'entre elles, affirme en tout cas une thèse de médecine publiée l'an dernier. Un appel donc ce matin pour que les choses se passent autrement, signé par des noms connus et respectés. Ça va de Marcel Gauchet à Alain Touraine, en passant par Ariane Nouchkine et le généticien Axel Kahn, qu'a joint ce matin Béatrice Duguay. Pour lui, c'est une affaire de solidarité nationale.
Vous savez, moi je suis le président d'une fondation importante qui travaille dans le domaine du handicap. Ce sur quoi je travaille est très proche du handicap lié à l'âge. C'est-à-dire que on arrive vraiment à éviter l'institution ou à faire sortir les personnes d'institution en créant des facilités en réseau. Et ça, il doit y avoir peut-être un élément commercial parfois, mais surtout un élément qui est profondément lié à l'organisation de la vie sociale par, je vous l'ai dit, le village, le quartier, la proximité. Vous savez, le travail va être modifié, quoi qu'on en dise, ça a été un débat de la campagne présidentielle, mais il va être modifié par la robotisation et l'intelligence artificielle. Et donc, il va y avoir du temps qui va être disponible pour des tâches d'accompagnement. Et ça, évidemment, pour les tâches d'accompagnement, un humain le fait considérablement mieux qu'un robot. Eh bien, il faut se servir de cette opportunité, de cette possibilité, et permettre aux personnes qui ont avancé en âge de vivre pleinement leur vie avec l'indépendance qu'elles ont gardée intellectuelle, tout simplement parce que la société leur a tendu la main.
Le ramadan, mois de jeûne pour les musulmans pratiquants, débutera demain en France. Un début qui risque d'être éprouvant en ces temps de grosse chaleur. Il est interdit de boire et de manger entre l'aube et le coucher du soleil. À Provins, en Seine-et-Marne, à 7h ce matin, trois hommes armés ont braqué un supermarché situé dans une galerie commerciale de la ville. 22 membres du personnel qui prenaient leur service ont été retenus en otage pendant plus d'une heure. Les braqueurs ont pris la fuite sans parvenir à leur fin, qu'on ignore, puisqu'en début de journée, les caisses sont vides en principe. Les 22 sont tous sains et saufs. Qui brandira cette année le bouclier de Brennus? Les demi-finales du top 14 de rugby auront lieu ce soir, 21h, et demain, 18h. Ça commence tout à l'heure au stade Vélodrome de Marseille, avec le choc La Rochelle-Toulon. La Rochelle qu'on n'attendait pas à ce niveau en début de saison, qui affrontera des Varois en perte de vitesse par rapport aux saisons précédentes. C'est un très grand moment pour La Rochelle. Le troisième ligne, Romain Sazy, au micro de Vincent Pellegrini.
C'est vrai que jamais j'aurais prévu ce scénario comme ça. Terminer premier, être directement en demi-finale à Marseille, c'est merveilleux pour l'équipe, pour le groupe, pour tout le monde. Si on peut aller jusqu'au bout, on ira. Franchement, il n'y a aucun joueur qui parle de finale encore, donc on n'a jamais fonctionné comme ça toute l'année. Personne n'a la grosse tête, on sait que ça va être un match ultra compliqué. Les supporters sont derrière nous, il y en a énormément qui vont faire le déplacement. Ça fait la force du groupe, de La Rochelle. Ils nous soutiennent tout au long de l'année, depuis des années, et je sais qu'ils vont pousser avec nous. On en aura besoin.
Le tirage au sort du tableau de Roland-Garros qui commence après-demain. Il vient d'avoir lieu. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Que faut-il retenir? Djokovic et Nadal dans la même moitié de tableau, peut-être?
En effet, si la logique est respectée, eh bien Novak Djokovic, le tenant du titre, et Rafael Nadal, le non-nuple vainqueur du tournoi, se retrouveront en demi-finale. Un premier tour relativement clément pour les Français, pour tous les Français, sauf pour un, Benoît Paire. Parce que justement, Benoît Paire sera opposé tout simplement au premier tour à Rafael Nadal, qui n'a plus gagné à Roland-Garros depuis 2014, mais c'est évidemment le grand favori, je vous le disais, 9 fois vainqueur ici. Il vise la décima. Pour les autres Français, un premier tour relativement clément, je vous le disais, Joe Wilfried Tsonga sera opposé à un Argentin, Renzo Olivo, Gaël Monfils à un Allemand, Dustin Brown, Lucas Pouille sera opposé à Julien Beneteau, c'est le seul match 100% français du premier tour. Quant à Richard Gasquet, lui, il sera opposé à un qualifié. Un dernier mot sur Kristina Mladenovic, la meilleure joueuse française, 14e mondiale et outsider. Elle sera opposée à Jennifer Brady, une américaine, mais elle pourra affronter Muguruza, la tenante du titre en huitième de finale.
Merci Fabrice Abgral. Deux événements sportifs de portée mondiale ce week-end. La Coupe de l'América, le plus vieux trophée sportif au monde, qui se dispute aux Bermudes. Début officiel demain. Et puis la plus vieille course automobile au monde, première édition en 1911. C'était 12 ans avant les 24 heures du Mans. Les 500 miles d'Indianapolis qui attirent chaque année 400 000 spectateurs. Deux jours avant la course, c'est dimanche à 18h, ils sont déjà plusieurs milliers à s'être installés dans les nombreux campings qui entourent le stade. Écoutez le reportage de Guillaume Batin en Amérique profonde.
Alors que Radio 500 Miles annonce la présence le jour de la course de l'ultra-conservateur Mike Pence, ancien gouverneur de l'Indiana et actuel vice-président des États-Unis, Bill, 52 ans, 2500 miles à son actif, est confortablement installé dans sa chaise de camping. Il pose devant son pick-up V8 qu'il a amené du Tennessee et sur lequel sont accrochés plusieurs drapeaux américains.
Les drapeaux, c'est pour rendre hommage aux soldats tombés pour le pays. Mais je suis là d'abord pour le sport. On a fait 6 heures de voiture. On a mangé, on est prêt.
À côté de la famille Holloway, Patsy, Marie et Véronica, la soixantaine, elles sont venues sans leur mari, du New Jersey, à bord d'un impressionnant camping-car de 10 mètres de long, trois supportrices inconditionnelles du français Simon Pagenaud.
Nous aussi les femmes, on adore les courses de voiture, quand ça roule très vite, que ça fait du bruit, tout le monde ne peut pas comprendre, mais regardez tourner ces voitures si vite pendant 800 km, je vous assure, c'est fascinant. On passe vraiment un très bon moment.
Et entre les deux groupes, on commence à discuter sur fond de musique country des éditions passées et des favoris pour dimanche. Indianapolis, Guillaume Batin, France Inter.
Et on termine avec le Festival de Cannes qui lui aussi d'ailleurs tire à sa fin. Bonjour Eva Bétan. Eva, êtes-vous là?
Oui, je suis là, vous bon, m'entendez?
Je vous entends et pour une fois, vous n'êtes pas seule. À vos côtés, une collègue italienne à vous, Dil Messaggero. Bonjour Gloria Satta.
Bonjour.
Le Festival de Cannes, vous le fréquentez depuis le début des années 80. On avait envie de vous demander ce que vous avez pensé de celui-ci. Mais un mot d'abord, toutes les deux, peut-être sur l'avant-dernier film en lice pour la Palme d'Or. Celui du Turc Fatih Akin, ça s'appelle Dans le Noir. On peut y voir notamment Diane Kruger. Alors,
je veux dire déjà qu'on est en désaccord, Gloria et moi. Je trouve que c'est un sujet fort et un traitement faible, puisqu'il est question d'un homme et de son enfant qui meurent dans un attentat commis par des néo-nazis, et c'est donc vu du point de vue de sa femme. Le sujet est fort parce qu'il s'est inspiré de meurtres qui ont été commis contre des populations d'origine immigrée, puisque l'homme qui meurt est un Turc vivant en Allemagne. Le traitement est très conventionnel, c'est-à-dire que c'est une convention, on suit la femme, etc., son chagrin, le procès, la vengeance, mais il y a beaucoup d'artifices dans cette mise en scène, et un défaut majeur, c'est que les néo-nazis sont quasiment inexistants dans le film. Donc, voir plusieurs fois son chagrin, on l'a compris, on arrive à une vengeance qui est très artificielle, et quand on compare avec ce qu'avait fait Fatih Akin il y a 10 ans, avec de l'autre côté, où il faisait des portraits croisés entre l'Allemagne et la Turquie, c'était brillant et très profond, c'est très décevant. Gloria,
oui, à mon avis, je peux partager votre impression sur le film, mais c'est plus intéressant les sujets qu'il a abordés parce que c'est d'une actualité tragique plutôt que la réussite. Mais je trouve remarquable, l'interprétation de Diane Kruger qui porte le film sur ses épaules, tous les films, et donc qui a le courage d'affronter un personnage très sombre par quelques mesures. Et donc, je pense qu'elle est une candidate au prix de l'interprétation féminine.
Alors, on ne va pas se bagarrer, on ne va pas refaire le masque et la plume, mais je pense qu'on ne peut pas être primé pour un bon rôle dans un mauvais film.
C'est tout, Eva. Voilà.
Un moyen film, pas du tout mon verre. Un film moyen.
Disons moyen.
Voilà. Ouais, vous êtes d'accord finalement. Alors, parlons du bilan. Donc, palmarès dimanche soir, comme d'habitude, beaucoup de supputations, de rumeurs. Gloria Satta, tout d'abord, pour vous, c'est un bon festival?
Voilà, écoutez, je trouve que c'est un festival bon. Il y a eu des films moyens, il y a eu des films bien. On n'a pas vu le chef-d'œuvre, il faut le dire, cette année-là. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec les critiques, par exemple, de Variety, qui a descendu le festival dans la totalité. Je ne suis pas d'accord avec certains critiques, même italiens, qui n'ont pas du tout aimé le festival. Je trouve qu'on a vu de beaux films, par exemple, Ma Palme personnelle, si j'ai le droit de l'annoncer, ce serait le film de Michael Haneke, Happy End. Mm-hmm. Je suis pas d'accord avec Eva. On a déjà discuté avant cette émission. Je trouve que c'est un film très fort, très dur, qui aborde le présent sans trop en parler. Et donc, on a vu de beaux films. Si je peux vous dire, la sélection française, je l'ai pas trouvé à la hauteur. Mm-hmm. J'ai pas aimé certains films comme Le Fantôme d'Ismaël, Rodin, La Main Double de Ozon, mais mm-hmm. Dans sa totalité, le festival a été intéressant parce que aussi j'ai fait une expérience, si je peux dire ça, que j'ai pas vu un film, mais j'ai fait l'expérience de la réalité virtuelle. Le court-métrage de Inaritu, c'était extraordinaire.
Et Eva, vous nous en avez parlé également. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de ce festival quand même? Il y a souvent comme ça une ambiance ou un thème général qui se dégage des films. Qu'est-ce que vous avez senti, vous, Gloria?
Alors, j'ai senti, encore une fois, cette année-là, que Cannes, c'est le dernier rempart contre la disparition du cinéma d'auteur, contre la disparition des salles, même la polémique contre le film Netflix, si je peux dire. J'ai été étonnée par les propos de Pedro Almodovar, qui a annoncé de ne pas vouloir primer le film produit par Netflix. J'ai trouvé ça étonnant.
Cannes, le dernier rempart, dites-vous, il y a aussi Berlin, il y a aussi Venise.
Il y a aussi Venise, mais voilà, là, on respire, on sent concrètement le respect pour le cinéma, l'amour pour le cinéma, même s'il y a de contrastes, par exemple, les tapis rouges avec le glamour, avec les starlettes, avec les modèles qui ont un peu, si on peut dire, surclassé les actrices de cinéma, parce que avec les followers, on parle de followers là, mais tout ça, quand même, c'est au service du cinéma. Donc, je respire le respect pour le cinéma et il faut venir ici pour savoir qu'est-ce qu'il en est du cinéma.
Bref, voilà, Cannes, c'est un endroit comme nulle part ailleurs.
Comme nulle part ailleurs. Donc, je suis très heureuse. Je suis très fatiguée. Je suis épuisée, mais je suis bien heureuse de venir m'épuiser à Cannes chaque année parce que là, j'ai une idée du cinéma, là où le cinéma va aller. Et donc, même cette année, même la polémique de Netflix, j'ai trouvé que le festival a bien défendu les salles, d'accord, les exploitants, les distributeurs, mais il faut tenir compte des nouveaux players, d'accord, de ceux qui investissent dans les cinémas. Et là, il y a aussi les plateformes digitales.
Eva, oui, vous avez 20 secondes pour nous dire ce que vous retenez de ce festival.
Eh bien, j'ai bien fait d'inviter Gloria. C'est parce que nous avons des goûts totalement différents. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, Russe, Andrei Zagnisev. Tous ces films, je vous en ai parlé, donc je les vite. Mm-hmm. La japonaise Naomi Kawase, le hongrois Mondrousseau, le grec Lantimos, le suédois qui a fait le film The Square, Bong Joon-ho, le coréen, l'américain Todd Haynes, le français Campillo sur le film sur Act of qui est formidable. Donc, il y a des belles choses, il y a des choses moins bien. Ça a commencé formidablement, puis après, il y a eu un creux. on fera le bilan plus tard quand les films sortent en salle et qu'ils sont confrontés au tout venant. On se dit, même ce qu'on a trouvé moyen va être évalué.
Merci Eva, merci Gloria Palmarès, donc dimanche soir. Simplement pour vous dire que c'est une franco-italienne, Claudia Ferrazzi, 40 ans, qui devient la conseillère culture d'Emmanuel Macron à l'Élysée, je voulais vous le dire. C'est l'ex-secrétaire général de la Villa Médicis.